Paru en 1968 dans une atmosphère de remise en cause de l'autorité établie, l'encyclique Humani Vitae apparut à l'opinion publique comme le refus pur et simple de la contraception artificielle. Si elle réaffirme en effet la position traditionnelle de la doctrine de l'Église dans le domaine de l'éthique sexuelle, sa préparation a pourtant provoqué au sein de l'Église un débat auquel le futur Jean-Paul II était pleinement associé.
Paul VI avait nommé Karl Wojtyła dans la commission qui avait été créée par Jean XXIII, son prédécesseur, une sorte de commission de conseil du souverain pontife sur ces questions de contraception, de régulation des naissances, de taux de fertilité, sur des questions de démographie mondiale. Il y a eu une réunion tout à fait importante où cette commission s'est scindée en deux factions, l'une favorable à l'évolution de la discipline de l'Église en matière de contraception et l'autre maintenant la position traditionnelle défendue par Pie XI, confirmée par Pie XII sur le sujet. Et Karl Wojtyła avait été empêché de participer à cette réunion qui était tout à fait majeure et à laquelle il aurait certainement pu contribuer dans le sens d'un évitement d'une position aussi dialectique et aussi tranchée des deux positions.
Cette absence fortuite de Karol Wojtyła, qui était extrêmement préparé sur la question, se doublera à ses yeux de l'échec ecclésial qui suivit la parution de l'encyclique. Échec qui motivera très certainement la préparation de ce que les théologiens appelleront sa théologie du corps. Autrement dit, l'ensemble des 129 catéchèses du mercredi prononcées de septembre 1979 à novembre 1984.
Effectivement, il y a eu un échec ecclésial d'Humani Vitae. Non pas dû à Paul VI lui-même, parce que Paul VI a été contraint de parler vite, de parler dans l'urgence, tout simplement parce que les tenants de l'évolution de la discipline de l'Église en matière de contraception avaient publié leurs conclusions dans la presse, cherchant à faire ainsi pression sur le pape qui a dû prendre position assez vite, une position d'ailleurs qui n'allait pas dans le sens de cette libéralisation ou de cette évolution qu'on peut qualifier de permissive. Et par conséquent, Humani Vitae est un texte qui était nécessaire, mais en même temps c'était un texte dans l'urgence, et comme tout texte d'urgence, eh bien il est imparfait du point de vue de la pédagogie, en quelque sorte, du point de vue des attendus anthropologiques. Et c'est ça ce que Jean-Paul II a cherché à compenser très largement par sa théologie du corps, qui représente 800 pages de texte, lorsqu'on met de bout à bout les 130 audiences qu'il a consacrées au sujet, et qui sont à mettre en relation avec les 20-30 pages de l'encyclique Humani Vitae, l'encyclique la plus décriée de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, Humani Vitae demeure encore des gros mots dans l'Église.
Mais la théologie du corps ne répond pas, ni ne contredit, l'encyclique Humani Vitae. Disons qu'elle se veut être une explication de texte théologique de l'encyclique.
Si Jean-Paul II a donné sa théologie du corps, c'est pour permettre de comprendre correctement les normes éthiques annoncées de manière un petit peu abrupte par Paul VI dans Humani Vitae. Donc il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre la position de Paul VI et la position de Jean-Paul II sur la contraception. Il faut que ce soit une affaire bien entendue. Mais ce que fait Jean-Paul II, c'est de donner à ces normes éthiques, un fondement anthropologique, et notamment d'anthropologie théologique, sur finalement l'intention de Dieu en créant l'homme et la femme comme des êtres incarnés et donc sexués. Alors, évidemment, il y a la référence à ce passage de Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps, et notamment au numéro 24, il y a ce que Jean-Paul II appelle la grande définition de l'homme légué par l'Église à l'occasion du Concile. L'homme ne s'accomplit pleinement que dans le don sincère, que dans le don radical, comme dans le don absolu, dans le don sans limite ni réserve de lui-même. Et ça, c'est la grande lumière anthropologique qu'apporte Jean-Paul II.
Et s'il est un sacrement qui est un don absolu et réciproque de l'un à l'autre, c'est bien le mariage chrétien.
Le mariage est un des lieux privilégiés de la réalisation par l'homme du don de lui-même. Et pour que ce don soit total, eh bien, il faut effectivement qu'il n'y soit pas porté atteinte. Il faut que le don de la personne intègre toute la personne, y compris la dimension de sa fertilité. Et que je ne peux pas prétendre me donner en introduisant une restriction dans ce don, de même que je ne peux pas prétendre recevoir le don de l'autre en recevant un don avec des restrictions.
Mais cette absence de restrictions ne signifie pas pour autant l'abandon de la paternité responsable défendu ardemment dans Humanivité.
Cet acte du don de la vie est un acte tellement important, tellement capital, tellement déterminant, qu'il ne peut pas être le résultat d'un acte fortuit. Et par conséquent, la position catholique en matière de contraception, c'est pas comme quelquefois on a entendu dire autrefois, il faut être accueillant à tous les enfants, tous les enfants que le bon Dieu voudra bien nous donner. Ben non, ça c'est peut-être tout simplement une attitude complètement irresponsable et qui peut être également un prétexte à aucune maîtrise et à aucune retenue en la matière. Parce que dans l'appréciation du nombre d'enfants que l'on doit avoir et de la fréquence avec laquelle on doit les avoir, eh bien il faut prendre en compte tout un ensemble de paramètres dont seul son juge approprié et légitime les époux pour savoir en conscience ce à quoi ils sont appelés, compte tenu de leur don, compte tenu de leur santé, compte tenu de leurs moyens, compte tenu de leur situation, compte tenu de tout un ensemble de circonstances que seuls ils sont fondés à apprécier. Et une vraie approche du don de la vie doit intégrer cette responsabilité à l'égard de la vie que l'on est capable ou pas d'accueillir et que l'on doit ou pas accueillir à tel ou tel moment. Ça, ce sont les époux qui en sont juges. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que le don de la vie est une chose tellement importante qu'elle ne peut pas être laissée au hasard et que doit s'y exercer